la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » sur Jet FM et cette semaine je lire plusieurs bandes dessinées, à vrai dire une que je suis réellement en train de lire et les autres je les ai achevées depuis déjà quelques temps. Je commence par les excellentes éditions 2024, sises à Strasbourg depuis pas mal d'années maintenant et qui ont un très beau catalogue des autrices et des auteurs qu'ils suivent avec intérêt, passion et fidélité depuis pas mal de temps. Et c'est aussi un éditeur, des éditeurs et éditrices qui travaillent très très bien l'objet livre avec des très très beaux ouvrages, comme par exemple Le Nécromancien de Mathias Arégui qui sort tout juste donc aux éditions 2024. Un livre grand format, cartonné, un assez grand format, presque classique de bande dessinée, qui compte quelques 104 pages, tout en couleur, et qui coûte 25 euros. De quoi s'agit-il? Eh bien, Mathias Arégui est un des habitués du catalogue de 2024, et il signe là un très beau et grand livre qui parle d'art, qui parle d'inspiration, qui parle de recherche, de quête presque spirituelle de l'inspiration, et qui parle aussi d'affrontement et de marché de l'art. Il s'agit de deux peintres que tout oppose, même si pourtant ils ont été amis, ou faussement amis, on le verra, lors de leurs études artistiques, mais l'un a rencontré le succès et l'autre pas. L'homme au succès fulgurant, c'est Hans Dubonneur. Le loser, qui est son voisin et qui cherche l'inspiration, c'est John Moroz. Mais il va se passer un petit retournement de situation et évidemment une évolution au fur et à mesure des pages de cette bande dessinée, notamment, comme le titre l'indique, par l'apparition d'un petit chien. Un petit chien que John Moroz va adopter alors qu'il pensait acheter quelques pinceaux en plus, supposant que le matériel allait lui amener l'inspiration. Eh bien, le magasin où il se fournissait change d'enseigne, la propriétaire reste la même, mais elle vend des animaux désormais et elle lui offre ce petit chien. Petit chien qui va s'avérer presque miraculeux, ou alors c'est dans le regard de John Moroz que les choses se passent, on ne sait pas bien. C'est en tout cas à l'image de la couverture de ce livre où l'on voit, pour une couverture c'est assez étonnant, trois cases à l'horizontale, à l'italienne, trois cases où ce petit chien apparaît, tout d'abord assis qui remue la queue, puis avançant vers nous, beaucoup plus frontalement comme nous regardant, et puis dans la troisième case, juste sa tête, son visage, réjoui, qui nous regarde et il est forcément complètement attendrissant. Vous le comprendrez aussi à travers ce titre, le nécromancien, eh bien il va lui arriver quelques malheurs à ce chien et pourtant il continue d'exister au sein du livre. Je ne voudrais pas vous en révéler trop, mais il est évidemment question de présence fantomatique et de présence d'inspiration. Et peut-être justement une belle métaphore de qu'est-ce que l'inspiration ? Est-ce réellement quelque chose qui tombe du ciel ? Est-ce du travail ? C'est un peu tout l'enjeu de ce récit. Où Hans Dubonneur, le peintre qui a réussi, qui a un succès critique comme public, est tout à fait cynique et désabusé et extrêmement désagréable et fortuné, alors que John Moroz est touchant, mélancolique, mais aussi un peu dans l'art de la loose et la victimisation. C'est beaucoup plus subtil que cette simple binarité, mais c'est aussi ce qui est à l'œuvre dans ce livre de Mathias Arégui, où les dessins se déploient de très très belles manières. Le langage de la bande dessinée est extrêmement bien utilisé, que ce soit dans la forme des cases, l'utilisation des couleurs, les différents styles qui sont reproduits, et un certain usage du langage qui est vraiment extrêmement minutieux, assez bien soutenu, quelque chose de très littéraire aussi. Et c'est un plaisir total de lecture, on se laisse complètement happer, emporter, envoûter par ce récit qu'on ne lâche pas jusqu'à la fin de ces quelques 114 pages. C'est Le Nécromancien de Mathias Arégui, un vrai coup de cœur pour ma part, 24 euros aux éditions 2024. Et aux mêmes éditions 2024, j'en avais un peu parlé dans cette même chronique au début de l'été, mais le livre n'est sorti que ce début septembre 2023. C'est Le visage de Paville de Jérémy Perraudeau, autre habitué du catalogue 2024. Jérémy Perraudeau, après le très beau Le long des ruines, propose ici Le visage de Paville, un grand livre de 160 pages, tout en couleur, pour 29 euros, cartonné. Là aussi, bel ouvrage, et à l'intérieur duquel, à travers son dessin qui se déploie de très belle manière, un rien schématique dans les personnages, mais de plus en plus fouillé dans les décors, Jérémy Perraudeau poursuit des récits de science-fiction, des récits fantastiques, des récits qu'on pourrait situer sur la planète Terre bien plus tard ou sur une autre planète. Quelque chose qui lui permet en tout cas de développer des récits également intimes et introspectifs, mais aussi parfois métaphysiques, comme ici, une recherche de sens, de mystique, de presque quête spirituelle, à travers quelque chose d'un peu statique. Pour une fois, ces personnages ne sont pas en errance ou en avancée ou en itinéraire pour une sorte d'accomplissement, mais il s'agit ici d'un moment un peu statique, d'un moment sédentaire. Pour le personnage de Paville, un scientifique qui s'écrase avec son aéronef sur une partie de la planète qu'il est venu visiter, notamment une partie qui semble encore un peu archaïque, où les croyances sont anciennes et où le développement est loin d'être technologique, mais plutôt mécanique. On est chez une population qui cultive, qui a certains rituels et qui, même dans son accoutrement, semble presque en dehors de la civilisation qui a l'air de l'entourer. Et comme il est forcé de rester le temps que vienne le chercher un bateau, pendant quelques semaines donc, eh bien Paville va s'accoutumer aux existences et aux rituels et au quotidien de ce village, de cette région dans laquelle il vient de tomber. Mais ça n'est pas tout. Il y a quelques mystères autour d'un grand totem. Et le visage de Paville raconte aussi cette quête de sens, cette recherche de mystique. C'est un très très beau livre de Jérémy Perraudeau qui sera présent, Jérémy, lors du festival Les Utopiales qui s'ouvre dès la semaine prochaine à la Cité des Congrès à Nantes. Festival dédié évidemment à la science-fiction, au fantastique et à tout ce type de récits. Et Jérémy Perraudeau va participer à deux rencontres table ronde qui vont croiser un peu les univers de différentes autrices et auteurs, et pourquoi pas aussi de scientifiques. Donc guettez sa présence sur le vaste programme des Utopiales qui commence dès le 1er novembre au soir et qui s'achève le dimanche 5 novembre à la Cité des Congrès de Nantes. Il est fortement question d'environnement, de nature et même d'écologie à travers cette bande dessinée Le visage de Paville. Eh bien, il en est fortement question aussi dans ce très joli livre d'Emily Ostergren, publié chez les éditions The Ochekochi, qui est baptisé Flore et Faune, un livre qui coûte 28 euros, qui est un tout en couleur et qui fait quelques, peut-être 150, 200 pages, je ne sais pas, il n'y a pas de numéro sur les pages. Mais c'est un gros livre de bande dessinée, un format carré très joli, souple, et avec des couleurs très très belles, probablement des aquarelles, je pense, ou des encres aquarellées. C'est un livre qui a originellement été publié en Suède, à Stockholm, et en 2021, et qui est donc publié pour la première fois en France en cette année 2023. Traduit du suédois par Aude Pasquier, et ce récit raconte une initiation, là aussi, et une transition peut-être. Un jeune garçon, un peu étrange, avec des lunettes frisées, un peu rondouillard, un peu maladroit, semble entendre et pouvoir converser avec les éléments, et tous les éléments, des cailloux, des plantes, des arbres. Il est évidemment la risée de ses camarades de collège et il est considéré comme un peu étrange aussi par ses professeurs et les gens qui l'entourent. Sa mère, pourtant aimante, semble perpétuellement absente, absorbée par son travail et par d'autres obligations. Il peine à réussir à entrer en communication avec elle. Et c'est tout un travail sur l'incommunicabilité qui est ici développé et où ce jeune garçon réussit bien plus facilement à communiquer avec les éléments qu'avec les êtres humains, ou avec certains animaux également. C'est un livre qui commence dans une forme de quotidien un peu morose d'adolescent, et puis qui bascule dans une forme fantastique très belle, très douce, comme une rêverie, comme une sorte de plongée à la Lewis Carroll dans un univers qui serait tout autre, et où d'autres possibilités, d'autres liens se feraient entre les êtres vivants ou non vivants, puisqu'il était question de cailloux dès le début du récit. Très joli livre qui se termine d'une très drôle de manière, une jolie pirouette qui évite toute question de résolution ou de morale possible, mais qui propose d'autres solutions possibles d'être d'être vivant. C'est aussi un livre sur l'acceptation de la différence et des différences, et il est extrêmement réussi pour ce faire dans un dessin un peu caricatural, déformé et rempli de couleurs très chatoyantes, et puis avec ce parti pris de montrer les personnages en très gros plan, presque grotesque, et ça donne un univers fantasmagorique, un peu allégorique et onirique. Ça fait beaucoup de hic, tout ça. Mais bref, vous le comprendrez, on est comme dans un rêve, peut-être à l'intérieur de l'esprit de ce jeune garçon qui, au passage, s'appelle Scott. Je ne l'avais pas signalé jusqu'ici. Ça s'appelle Flore et Faune de Emily Ostergren chez The Ochikuchi. Et c'est un très beau livre de bande dessinée et une belle découverte de cette autrice suédoise. Ça coûte 28 euros. Autre belle découverte, et chez un autre éditeur magnifique, c'est les éditions Misma, édition toulousaine à la base, qui font un très beau travail sur la bande dessinée d'autrices et d'auteurs depuis pas mal d'années aussi. Les éditions Misma publient pour la toute première fois en France un maître japonais qui était resté jusque-là un peu souterrain. C'est Hideyasu Mutoh. Une chouette vie, c'est le recueil qui rassemble une toute petite vingtaine d'histoires de cet auteur japonais majeur, traduit du japonais par Charles Lamoureux, mais avec une préface, une présentation de Federico Anzalone, qui est assez spécialiste du manga, et notamment qui présente de belle manière le contexte dans lequel Hideyasu Mutoh a produit ses bandes dessinées dans la revue alternative Garo, une revue qui a connu des noms relativement célèbres maintenant dans ses pages et qui proposait d'autres manières de faire un récit en bande dessinée, notamment en assumant ce côté un peu vite fait, mal fait, des dessins pas forcément ultra léchés pour aller un peu à l'encontre de cette industrie du manga qui cherchait et visait très souvent une forme de perfection dans l'exécution du dessin. Hideyasu Mutoh essaye plutôt de viser la justesse du récit à travers parfois des dessins qui déforment les traits des personnages ou des proportions un peu mal foutues, mais peu importe, l'intérêt est dans l'énergie qu'il met dans ses développements, dans ses récits. Des récits qui parfois n'ont ni queue ni tête ou retombent bizarrement sur leurs pattes, mais très souvent, il y a quelque chose de très touchant, de très émouvant dans les rapports entre les personnages, des rapports d'enfants avec leurs parents, des rapports de travail, des petites choses du quotidien, mais qui vrillent toujours dans quelque chose d'un peu fantastique, d'un peu étrange, d'un peu malsain parfois, mais pas toujours. C'est pas non plus la totale abjection ou le total gore comme chez certains ou certaines autrices ou auteurs japonais. Et c'est une très belle découverte que l'univers étonnant de cet auteur, Hideyasu Mutoh, qui a publié la plupart de ses récits dans les années 1990. Il y a par exemple ce récit que j'aime beaucoup, et puis un personnage qu'on retrouve, c'est Hachizume est trop mignon. Hachizume, c'est un lapin qui est vêtu d'un costume et qui est complètement anthropomorphe et qui travaille dans un bureau qui a des rapports divers avec ses collègues, mais il a beau faire quelques bêtises ou ne pas faire correctement le job, en fait il est tellement trop mignon. C'est un petit lapin relativement bien dessiné et puis qui a tout ce qu'il y a de plus kawaii, comme on dirait justement en japonais. Eh bien, tous ses collaborateurs, tous les gens qu'il croise, le trouvent tellement trop mignon, avec des petits cœurs dans les bulles de pensée qu'ils ont en le voyant, qu'on lui pardonne tout, y compris le plus dégueulasse. Et il en profite un peu trop, ce Hachizume. C'est assez drôle parce que c'est forcément un peu cynique et c'est un personnage qu'on va retrouver à d'autres moments, puisque l'auteur n'hésite pas à rassembler ses personnages dans différents récits. Après les avoir suivis dans quelques courtes histoires, eh bien, il y a parfois des récits un peu plus chorales où on les rassemble tous pour développer encore plus cet univers. On sent une forme de grande liberté et d'improvisation, mais aussi une maîtrise du récit et des sentiments qu'il essaye de faire passer à travers ses personnages, à travers leurs réactions et comportements. C'est une très belle idée, encore une fois, de publier ce grand maître japonais, Hideyasu Mutoh, à travers cette compilation Une chouette vie, pour laquelle il a réalisé une couverture exceptionnelle, tout en couleur et réalisée à l'ordinateur, quelque chose de très numérique et très étonnant par rapport au contenu des pages, tout en noir-blanc, qui, elles, sont beaucoup plus directes dans le dessin. Il faut savoir que Hideyasu Mutoh semble avoir presque tourné le dos complètement à la bande dessinée, peut-être pas complètement à l'image. Il s'est beaucoup consacré ces derniers temps à un label de vinyle de jazz qu'il a créé et qu'il fait vivre au Japon. 20 euros pour cette belle et grosse compilation de Ade Yasumoto, Une chouette vie aux éditions Misma, une chouette découverte.